De quoi s'agit-il?
C'est tout ce qu'il y a de simple, voyons.
Mais enfin, qui êtes-vous?
Répondez.
Je ne sais pas pourquoi vous nous faites perdre notre temps.
C'est vraiment incompréhensible.
Alors j'écoute.
Merci.
Eh ben je vous écoute, parlez, allez.
Allez-vous me répondre, oui ou non?
Cinérama.
Vous en êtes sûr?
J'en suis certain.
Ah, un petit mot encore.
Cinérama.
Que faites-vous maintenant?
Actualité cinéma.
Ah bah riez-vous.
Et tout le reste.
Je ne crains donc pas d'affirmer que notre émission est une entreprise de salubrité publique. C'est délicieux. Nous avons tous nos petits fantasmes.
Je sais que vous êtes très occupés, aussi nous ne vous retiendrons pas longtemps.
Je serais ravi de vous croire.
Bonjour et bienvenue pour la nouvelle saison de Cinérama, saison 2019-2020, c'est la rentrée. Et pendant toute cette saison, vous aurez évidemment des chroniques, vous aurez des interviews et puis des blind tests. Sauf que là, c'est la rentrée et ça se bouscule. On a deux interviews, donc existe le blind test qu'on retrouvera la semaine prochaine. Bonjour Marine, bonjour Manu.
Bonjour à tous.
Bonjour.
C'est la même équipe. Et donc, une interview pour toi, Marine.
Oui, une interview de Stéphane Battu, le réalisateur de Vif Argent, élu meilleur film de cette semaine par la critique française. Et je vais également vous parler d'Une fille facile, le nouveau film de Rebecca Zlotowski. Je pense que j'aurai beaucoup de mal à dire ce nom pendant l'émission.
Et toi Manu, un film d'horreur hein?
Oui, le film d'horreur estival, Wedding Nightmare.
Et puis, eh bien, moi, je vous parlais de deux interviews. Ce sera celle de Grand Corps Malade et Mehdi Idir, la deuxième de cette émission, pour le film La vie scolaire. Et puis, je vous parlerai aussi d'un film alors vraiment excellent, Viendra le feu, d'Olivier Lax, qui a remporté un prix au dernier festival de Cannes. Ainsi débute Cinérama avec Une fille facile.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui?
Cinérama.
Nous reviendrons aux questions plus tard.
Ah, oh, Sophia, il dit un truc de pute, il dit rien.
Et alors? C'est grave.
Bah oui, non, c'est pas très grave, franchement, de se faire insulter de pute, surtout quand la forêt amazonienne brûle. Franchement, je pense qu'il y a un peu pire. On commence avec donc Une fille facile de Rebecca Zlotowski. C'est l'été à Cannes et la jeune Naïma, coincée entre une mère qui travaille dur dans un hôtel de luxe et ses amis aussi pauvres qu'elle, s'ennuie, comme toute adolescente. Le retour de sa cousine Sophia, interprétée donc par Zaya Dehar qu'on vient d'entendre, dont la vie consiste à coucher avec des hommes riches et à se faire offrir des cadeaux somptueux, va lui ouvrir les portes d'un monde nouveau et fascinant.
Tu crois que Sophia est libre?
Il est pas.
Tu sais, la liberté, des fois, c'est du travail aussi. C'est un travail plus dur que le travail de bureau. Tu vois pas qu'il est, des fois, très fatigué? Toi aussi, d'ailleurs, regarde. J'espère que tu passes des bonnes vacances au moins.
Alors le film commence avec cette phrase de Pascal, « La chose la plus importante à toute la vie est le choix du métier, le hasard en dispose ». Certes, ok, sauf que cette phrase eh bien, apparaît au moment où l'on découvre Zaya en train de nager à poil dans une crique cannoise. Alors oui, quand je dis Zaya, c'est bien donc la jeune prostituée de 17 ans qui avait été au cœur d'un scandale avec le joueur de foot Franck Ribéry et qui s'essaie donc ici au cinéma sans trop prendre de risques puisqu'elle joue quand même plus ou moins son propre rôle. Et ce sera eh bien, un peu le problème majeur du film qui pourrait dire plein de choses intéressantes en fait sur la prostitution ou sur la femme tout simplement, mais qui est intégralement construit autour de la fascination qu'éprouve la réalisatrice pour Zaya. Alors moi j'avais découvert Rebecca Zlotowski avec le très réussi Grand Central, un petit peu comme j'imagine tout le monde dans ce studio, une jeune réalisatrice qui propose un cinéma je trouve audacieux, toujours ancré dans un milieu social très particulier, qui explore les relations humaines lorsqu'elles sont complexes ou ambiguës. C'est donc eh bien, avec tristesse que je vous apprends eh bien, qu'elle a échoué hein, dans les grandes largeurs avec ce nouveau film Une fille facile. Rebecca Zlotowski eh bien, dit que ce qui l'a fascinée en fait, chez Zaya, c'était sa façon de parler, parce qu'elle parle, je cite, comme un personnage de Romère. Mais personne n'aime la façon dont les personnages de Romère parlent, à part Manu. À part Manu, évidemment, ça c'est sûr, mais en fait, c'est juste insupportable. Donc, c'est très agaçant. Ça donne donc à Zaya, qui a déjà de base cette diction agaçante, en fait, son phrasé, qui est en effet très particulier, est aussi artificiel que son physique. On sent que la réalisatrice a même un peu forcé pour évoquer la façon de parler qu'avait Bardot. On écoute d'ailleurs un grand moment de jeu d'acteur.
Qu'est-ce qui t'a apporté le mec là avec qui tu étais cette année? Comment il s'appelle déjà?
Enzo.
Ouais, alors?
Je sais pas, de l'amour.
Ouais, l'amour. Moi, l'amour, ça m'intéresse pas.
Tout le monde s'intéresse à l'amour?
Pas moi. Moi, ce que j'aime, c'est les sensations, l'aventure. Pour moi, les sentiments, ça compte pas du tout. Tu veux que je te donne un conseil? On doit jamais rien attendre. On doit tout provoquer par nous-mêmes. Tu comprends?
Alors d'ailleurs, tout dans la façon en fait dont ce personnage est filmé évoque Brigitte Bardot, sauf que finalement Zaya souffre énormément de cette comparaison, parce qu'elle a beau porter une robe Vichy et minaudée beaucoup, elle est quand même très loin du charme de Bardot, je pense que t'es d'accord avec moi Manu, toi qui as vu également le film. Et puis bah, il ne suffit pas de filmer une belle blonde allongée dans le sable pour créer quelque chose d'aussi iconique que l'a été Brigitte Bardot en 1956 dans « Et Dieu créa la femme ». Non, il faut être aussi en mesure de produire du sens. Quand Brigitte Bardot a été révélée, elle incarnait vraiment une liberté de la femme qui était à cette époque très nouvelle, très moderne et donc très provocante. Zaya n'a rien de vraiment provocant, elle est juste très artificielle et la regarder et l'écouter pendant 1h30 provoque un vrai malaise. Dans le film « Une fille facile », il n'y a finalement aucune réflexion, alors qu'il y avait quand même matière, je pense, à s'interroger sur plein de choses. C'est quoi une fille facile? Quel prix doit-on payer pour être libre lorsqu'on est une femme? Est-ce que le fait de tarifer sa sexualité est une façon d'être libre? Il y avait plein de choses à dire et Rebecca Zlotowski passe totalement à côté. Au lieu de s'interroger finalement sur la femme et sur la société, elle crée une sorte de pseudo-histoire d'amour avec deux hommes d'affaires. Alors certes, ça nous permet de revoir Benoît Magimel, hein, qui ma foi a l'air très en forme, on est content pour lui. Mais ça fait également que le film s'achève sur un très médiocre revirement de situation en forme de lutte des classes improbable et complètement ratée. Une fille facile, c'est un film raté, sympathique, certes, par plusieurs aspects. La jeune comédienne Mina Farid, qui est le vrai premier rôle du film, est excellente, très naturelle. Mais cela n'empêche pas le film de passer, mais alors complètement à côté de ce qu'il aurait pu être, je pense. Et d'autant qu'il ne provoque chez nous absolument aucune émotion, à part la nostalgie pour moi, car Vincent, figure-toi que l'endroit en fait, où vivent les deux personnages principaux, eh bien, c'est le lotissement où on était hébergé pendant le Festival de Cannes. Oh. Je te jure, je l'ai reconnu. C'est le lotissement. Voilà. Donc à part cette petite nostalgie liée au Festival de Cannes, moi, ça ne m'a provoqué absolument zéro émotion à ce film.
Et toi, Manu?
Le problème du film, c'est que j'ai trouvé que c'était un film de plage qui s'assume pas. Moi, j'ai eu l'impression de voir L'année des Méduses. Mais il faut réfléchir, il faut penser. Il pense mal, le film. Enfin. Et je pense que c'est un peu le problème, parce que ça aurait pu faire un film, finalement, d'été, plutôt regardable. Mais il y a quand même une prétention qui fait que moi, ça m'a insupporté.
Oui, quand Zaya cite Marguerite Duras, on part dans une autre dimension. Là. C'est...
Bon, pourtant, la presse a été plutôt unanime, hein, et même pour féliciter le jeu de Zaya.
Oui. Mais je pense que ça, c'est le pouvoir des Nibars. Clairement, faut, à mon avis, à un moment, je pense, où leur sens critique était complètement atteint, ils n'étaient plus là.
Ça y est, on a notre punchline, donc le pouvoir des Nibars. On passe à toute autre chose, c'est la première interview de cette émission. Grand corps malade et Mehdi Idir, qu'on aime beaucoup.
Qui êtes-vous?
Cinérama.
J'ai pas très bien saisi.
Chronique. Invité et nouvelle du 7e art.
Tu comprends ce que je veux dire?
Deuxième film du duo Grand Corps Malade et Mehdi Idir, qui après Passion, qui nous plaçait dans un centre de rééducation, eh bien, emmène le spectateur dans un collège de banlieue parisienne. Sur le ton de la comédie, plus que du drame, eh bien, on arrive dans l'établissement avec Samia, une toute jeune conseillère principale d'éducation qui a quitté son Ardèche natale pour la ZEP. L'intérêt de prendre pour personnage principal la CPE, c'est permettre de voir les relations qui se tissent avec les parents, les élèves, le personnel administratif, les professeurs et les surveillants, évidemment. Le regard du duo de réalisateurs est toujours bienveillant. Les deux réalisateurs prennent garde à ne pas sombrer dans les clichés. On ne trouve ici aucun prof détestable, aucun parent ayant complètement délaissé son enfant, et pas plus d'élèves foncièrement méchants. L'élève le plus dissipé sera Yanis, son histoire qui se rapproche de celle de Samia, qui va pour ainsi dire le sauver. Alors on aura du mal à comparer la vie scolaire à Entre les Murs. Si le film de Laurent Cantet, qui avait remporté la Palme d'Or, avait pour parti pris de rester longtemps en classe, dans le film de Grand Corps Malade et Mehdi Idir, on s'évade parfois. Et puis, il y a l'humour hein, qui évacue toute tension, qu'il s'agisse des surveillants, du prof de sport qui invente des disciplines improbables ou des élèves qui manquent rarement une occasion de s'esclaffer. La vie scolaire est une comédie sensible sur le vivre ensemble, doublée d'une chronique sociale. On écoute les deux réalisateurs.
On se calme, ça suffit.
On te calme, ça suffit maintenant.
Ok, toi tu prends tes clics et tes claques et tu sors. Vous êtes en troisième, c'est une année très importante pour vous. Mais pour ça, il y a quelques règles à respecter.
Il y a quelques règles à respecter.
L'idée, c'est évidemment, les profs, c'est avant tout des êtres humains. Donc il n'y en a pas deux pareils, il n'y en a pas deux qui abordent la pédagogie de la même façon. Et il se trouve que le personnage de Soufiane, on sent rapidement qu'il vient de ce milieu-là, qu'il a un peu les codes des élèves qu'il a en face de lui. Et du coup, il est plutôt à l'aise. On voit que dès la première scène, on voit qu'il est capable de les chambrer. Et derrière ces chambrettes-là, on voit qu'il les respecte beaucoup. Et du coup, qu'il leur parle un peu d'égal à égal, même si évidemment, c'est lui qui représente l'autorité. Et puis après, il y a le prof, M. Bouchard, joué par Antoine Reinhardt, qui n'a pas la même aisance. Et on aurait pu avoir avec Mehdi, et d'ailleurs on l'a eu au début sur notre première version de scénario, la tentation d'en faire vraiment un prof con, de faire vraiment le con qui est limite méchant, etc. Et très rapidement, on a changé notre fusil d'épaule, il est tout sauf con ce prof-là, il est tout sauf méchant, il est juste en difficulté en fait. Et en fait, il y a plein de profs comme ça, ils sont moins à l'aise, ils ont moins la facilité de contact avec leurs élèves, et du coup ils se font un peu malmener, et ils sont sur la défensive, et ça se passe pas très bien.
Tu leur donnes aucune limite, tu crois que tu leur rends service?
On les gère tous les élèves, d'accord, on n'est pas là pour faire un concours.
Alors attends, quand un élève se fout ouvertement de ta gueule, qu'il dit que physiquement tu ressembles au fils de Trump croisé avec Van Gogh, pardon. Non, et pour moi c'est l'irrespect.
Excuse-moi, franchement, sur la vie de ma mère, tu as la même tête que Van Gogh.
Tout à fait d'accord.
Ce prof-là, il est joué magnifiquement par Antoine Reynard, parce que du coup, Antoine, il amène voilà, l'empathie au personnage. C'est-à-dire que ce personnage-là, ben ouais, on a un peu de la peine pour lui, parce qu'on se dit, ben, il essaye d'être prof, il essaye de faire son métier, mais c'est dur, il se fait rentrer dedans, il n'arrive pas à bien gérer la discipline dans sa classe. Et voilà, et des profs comme ça, il y en a plein, et ce n'est pas forcément des mauvais profs, c'est juste que, eh ben, à cet endroit-là, dans ce contexte-là, il a un petit peu du mal à établir la confiance et le contact avec les élèves.
S'il vous plaît, on s'écoute un peu. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à notre nouvelle CPE, mademoiselle Samia Zibra.
Sauve-toi, jeune CPE, tant qu'il en est encore temps.
On court pas dans les couloirs.
Pourquoi, madame, je marche vite.
Vous êtes en troisième, c'est une année très importante pour vous.
Monsieur, en fait, ça tec la nouvelle coupe, hein. On dirait un vrai daron maintenant.
Juste sur le daron, calme-toi un peu, je te rappelle quand même que t'as 19 ans, t'as redoublé plus de 7 fois, d'accord? Que t'as ton fils qui est en 6ème juste à côté.
Monsieur prof, vous moquez, c'est pas bien, vous avez pas le droit.
Quand on a choisi de faire ce thème, on s'est rendu compte qu'il y a... ça avait déjà été un peu fait. Donc on s'est dit, qu'est-ce que nous, on peut apporter de nouveau? Ce qu'on a apporté de nouveau, c'est du réalisme, parce que nous, on était dans ces collèges-là. Et on a des amis qui travaillent dans ces collèges-là, des enfants d'amis qui sont encore dans ces collèges-là. Du coup, on est toujours, nous, dans cette réalité. Donc c'est ce qu'on a voulu, j'espère qu'on y est arrivé, d'apporter différence. C'est ce réalisme, chaque scène, chaque personnage... que vous voyez dans ce film, c'est des choses qu'on a connues, qui ont existé, soit Fabien, soit moi, soit par des amis. Voilà, chaque scène, en fait, on a fait un espèce de patchwork de plein de personnages et plein d'histoires qui ont réellement existé. Et je pense que c'est là où il y a peut-être une petite différence. Voilà, nous on a connu ces collèges-là.
L'autre parti pris, qui est présent dans certains films sur les collèges, dans ces quartiers populaires, mais pas tout le temps, et je trouve et je pense que c'est un peu une erreur quand c'est pas le cas, c'est l'humour. C'est-à-dire que si tu fais un film sur des gamins dans un collège en banlieue et que tu traites pas cette part de vanne permanente, de tchatch, y compris entre les adultes et les élèves, etc., c'est que tu passes un peu à côté d'une grosse part du sujet. C'est-à-dire que, alors, on vient de là, et si aujourd'hui on est des vanneurs, c'est parce qu'on a grandi dans ces quartiers-là, et c'est indispensable. Donc c'est ce qu'on peut peut-être noter comme absence dans certains de ces films, c'est ne pas traiter l'humour et l'énergie et voilà, la tchatch de ces gamins-là, quoi.
Sinon, ça doit te changer du roussillon. C'est toi qui as choisi de venir ici, en fait?
Ouais, ouais, toujours eu envie de travailler en ZEP.
Au revoir, madame. Salut, Danis.
Vas-y, Moussa.
Ah, j'aime bien ce petit.
Moi, je veux bien être sympa, il n'y a aucun problème. Hein. C'est juste, faut pas me prendre pour un con.
Quoi?
Oh. Yanis, tu cherches au quoi, là? Tu veux te faire exclure direct dès le début de l'année, c'est ça? Mais je te préviens, moi, je vais pas te lâcher. Là, t'es sur une mauvaise pente et c'est trop dommage parce que moi, je sais que tu vaux mieux que ça.
Et si je valais pas mieux que ça?
En tout cas, on avait la conviction qu'il fallait pas taper sur un type de personnage, quoi. On a voulu taper ni sur les élèves. Les élèves, ils sont tous sauf bêtes, ça se voit tout de suite. Ils sont intelligents, ils sont vifs, ils sont drôles. On tape pas sur les parents. Il y a cette tentation-là aussi, on entend ces discours de dire « Ouais, de toute façon, les parents, ils ont baissé les bras, ils ont abdiqué, donc c'est de la faute des parents. » Donc non, on pense que c'est pas du tout la faute des parents. Et on voulait pas du tout que ce soit la faute des profs, on voulait pas taper bêtement sur l'éducation nationale. Et c'est pour ça qu'on a voulu montrer que les profs, ils sont pleins de bonne volonté, et même le prof en difficulté, il continue de se battre, quoi.
Tu sais, enseigner à Saint-Denis, c'est pas complètement comme enseigner ailleurs.
T'es arrivé en retard à cause de la grève.
Ah oui, il y avait la grève.
C'était une grève Air France. Et t'habites au bout de la rue.
Non, j'avoue, celle-là, j'ai un peu abusé.
Voilà, c'était Grand Corps Malade et Mehdi Idir dans Cinérama pour le film La Vie Scolaire, qui est sur les écrans depuis la fin de l'été. Allez, maintenant, on parle d'un mariage qui tourne mal.
Avec vous, c'est du travail soigné.
Cinérama.
Et ça, c'est clair.
À minuit, tu vas devoir jouer à un jeu.
C'est notre façon à nous d'accueillir les nouveaux membres de la famille.
Le film d'horreur de l'été, hein, et sans doute de l'année d'ailleurs, avec Us, est bel et bien ce Wedding Nightmare. Alors, le titre original, c'est Ready or Not, en fait, c'est le nom du jeu. Alors, dès les premières séquences, hein, les cinéastes distillent une atmosphère étrange hein, qui relativise le bonheur affiché par les personnages. En pleine festivité, alors nous faisons la connaissance de la future mariée, Grace, pièce rapportée au sein d'une famille de la haute bourgeoisie, très à cheval sur les valeurs établies et les règles dictées par les anciens. Alors, ce n'est pas un hasard si son futur mari, le prévenant Daniel, lui demande, alors avec tout le sérieux du monde, si elle est persuadée de faire le bon choix. Si elle souhaite tout annulé, elle peut le faire sur le champ, et bien il comprendrait. Alors une phrase d'usage que certains ou certaines ont déjà entendue dans le seul but de se rassurer, de sceller une union, l'art de se faire désirer en quelque sorte. Or, une fois n'est pas coutume, Grace aurait dû prendre un peu moins à la légère les avertissements de Daniel. L'angoisse inextricable d'intégrer une famille lorsqu'on est à moitié orpheline mêle l'effroi à l'excitation. La pauvre Grace va donc dire oui, sans savoir dans quel guet-apens elle s'est jetée. Mais qui connaît les règles et les archétypes n'est pas dupe. La longue lignée des Le Lomas est constituée de figures décadentes et inquiétantes entre la mère mielleuse au sourire forcé, la grand-mère à l'allure de spectre, le frère alcoolique dégoûté qui aimerait renier ses origines ou encore la sœur hystérique. Alors cette galerie d'individus un peu borderline, en dépit ou à cause de leur classe sociale, nourrit un récit intelligemment construit. Au cœur de ce cauchemar en devenir, Grace, l'héroïne, fait figure d'agneau de la bergerie, jetée en pâture à une horde de loups affamés. Mais que raconte réellement cette farce macabre, sans trop en dévoiler non plus. Alors tout part d'un jeu, idiot en soi, lié à une superstition ancestrale. À minuit, pour honorer la tradition et afin d'intégrer comme il se doit sa nouvelle famille, Grace doit tirer une carte et donc participer à un jeu. Évidemment, ce qui ne devait être qu'une expérience ludique et désuète va rapidement tourner à une partie de massacre, alors jouissive pour nous et éprouvante pour l'héroïne.
Ils sont sûrs de devoir te tuer avant le lever du soleil.
Je sais que tu es là.
Si on ne la retrouve pas et qu'on n'accomplit pas le rituel, on est tous morts!
C'est vrai ce qu'on dit. Les riches sont vraiment différents.
Alors le duo de réalisateurs, hein, Matt Bettinelli-Holpin et Tyler Gillette, alors signe un épatant spectacle grand guignol, hein, une virée, on va dire, euphorique au sein d'un genre où une vieille bâtisse aurait remplacé le train fantôme de circonstance. Alors le décor, hein, peuplé de chausse-trappes, de passages secrets, de couloirs interminables, d'escaliers imposants, devient un véritable terrain de jeu gothique où progressivement la victime désignée se transforme en guerrière luttant pour sa propre vie. Alors dans sa robe blanche immaculée, Grace n'est pas seulement cette incarnation de l'innocence souillée, elle est aussi et surtout la petite voix du peuple, la jolie prolétaire qui rêve du prince charmant mais qui va se retrouver confrontée à une oligarchie emmenée par une bande de cinglés. Alors paradoxe politique, elle incarne cette Grace, prolo, plongée dans le fumier bourgeois. La fable sociale n'a rien de révolutionnaire, mais sa dimension anti-trumpienne, hein, que d'armes d'ailleurs disponibles chez ces wasps si élégants en apparence, s'avère revigorante. Alors dans une visée cathartique, elle déploie une rage libératrice en mettant une raclée à ces rednecks de l'aristocratie américaine. Alors l'effet cathartique fonctionne à plein régime sous l'œil complice d'un spectateur ravi de la succession de meurtres sanglants et parfois insolites. Alors également scénaristes et cinéastes dépassent, on va dire, le cadre étriqué du slasher, on va dire conceptuel, pour trouver le bon équilibre entre le pamphlet politique, le pastiche horrifique et le survival. Alors la mise en scène énergique, hein, se permet quelques échappées belles du côté du cinéma gothique grâce à une très belle photographie qui met d'ailleurs très bien en valeur le décor asphyxiant de la demeure. Wedding Nightmare fait un peu plus que remplir son contrat de simple divertissement en osant tordre le cou aux conventions, en refusant de se plier aux dictats mollassons du cinéma d'horreur contemporain. Alors avec un entrain décomplexé, le film va jusqu'au bout de sa folie jubilatoire à l'image d'un épilogue particulièrement explosif.
Ben voilà, ça fait un film de plus apprécié. Et c'est le cas de celui qui vient, c'est Vif Argent, et c'est la deuxième interview de cette émission.
Qui êtes-vous ?
Cinérama.
J'ai pas très bien saisi.
Chronique. Invité et nouvelle du 7e art.
Tu comprends ce que je veux dire ?
Juste est un jeune homme qui erre dans Paris pour accompagner les personnes récemment décédées vers l'au-delà, à la manière de Charon, le passeur du Styx. Et si Juste a écopé de ce métier un peu particulier, eh bien c'est qu'il est mort lui aussi. Un jour, il rencontre une femme qui croit reconnaître en lui un amour passé qui a un jour mystérieusement disparu. Commence alors une étrange histoire d'amour qui, moi, m'a fait un peu penser, alors grossièrement, à une sorte de version cinéma d'auteur du film américain Ghost. Je pense que le réalisateur aurait détesté que je lui dise ça en interview, donc je ne lui ai d'ailleurs pas dit. Évidemment, Vif Argent, c'est bien plus que cela. Le film aussi, entre fantastique, romantique et social, c'est un film qui impressionne par ses partis pris, par l'audace de sa mise en scène, qui symbolise vraiment pour moi une sorte de vivacité du jeune cinéma français. Et puis, c'est un film qui foisonne de références. Donc ça, Manu, je sais que toi, tu es beaucoup plus sensible à cet aspect-là que moi.
Bah, oui, au-delà des références que le réalisateur a citées, moi je trouve que le film va du côté du Japon. Et il a une manière de filmer finalement ces fantômes qui cohabitent presque avec les vivants. Et ça rappelle beaucoup certains films de Kiyoshi Kurosawa, dont un particulièrement qui s'appelle Vers l'autre rive, qui a quasiment le même sujet, puisque c'est un peu l'histoire d'un fantôme qui retourne 3 ans après auprès de sa femme. Alors c'est un peu inversé, mais le sujet en fait en est assez proche. Et je trouve qu'il trouve en fait ce film-là, le côté poétique qu'on voit régulièrement dans tous ces films asiatiques.
Et justement, ce sujet donc, qui est les fantômes, Stéphane Battu, le réalisateur du film, nous en parle au micro de Cinérama.
Si tu étais passé à côté d'une chose dans le passé, que tu puisses remonter dans le temps, qu'est-ce que tu ferais ?
Dans Vive Argent, qui est votre premier long métrage de fiction, vous abordez un thème qui est finalement pas très classique dans le cinéma français, à savoir les fantômes, entre autres. Je pense notamment, il y a eu les revenants de Romain Campillo, il y a eu également les fantômes d'Ismaël. Donc qu'est-ce qui vous a attiré dans la figure du fantôme ?
La première chose, c'est peut-être lié au sentiment que j'ai quelquefois quand je me promène dans la rue et que je vois des personnes qui ont l'air complètement invisibles aux yeux des autres. Puis l'autre chose, c'est que comme je promène beaucoup dans les rues à la recherche des fois de personnages pour les castings dont je m'occupe, j'ai été amené à regarder peut-être un peu plus ces personnes, à les regarder avec un intérêt qui est professionnel. Et puis des fois, ces personnes, je les rencontre, je leur pose des questions, je leur demande de me raconter des souvenirs. Et il arrive que certaines de ces personnes jouent dans les films. Et je vois qu'il y a une sorte de métamorphose, en tout cas dans mon regard. C'est-à-dire que je vois en elles plutôt des personnages. Il y a comme quelque chose du destin qui se joue à ce moment-là. Alors j'en suis le spectateur, je ne suis pas l'acteur, mais le spectateur. Et je trouvais que la forme fantastique, l'idée du fantôme, pouvait témoigner de cette expérience que j'ai comme ça, de ce genre de rencontre.
C'est moi que vous cherchez ?
Pardon, oui, pas vraiment. Vous n'êtes pas Guillaume ? Je vous ai pris pour quelqu'un d'autre, enfin quelqu'un que j'ai pas vu depuis très longtemps, qui s'est envolé. Vous devez vous en foutre complètement, je suis désolée.
C'est pas grave.
Même la voix, c'est impressionnant. Mais bon, il serait beaucoup plus vieux de toute façon, donc c'est impossible.
J'ai un peu l'impression que le film s'articule autour de deux fantasmes majeurs de l'être humain, à savoir qu'il y ait une vie après la mort et que le fait de reprendre une histoire d'amour inachevée soit possible.
Sur l'histoire de la vie après la mort, en fait, c'était plutôt de réussir à saisir le sentiment de la perte ou de l'absence, c'est-à-dire ce que chacun de nous peut ressentir à un moment. Que ce soit une perte due à la mort ou à une séparation, en fait. Mais c'est vrai que cette idée que le temps passe et qu'on puisse peut-être revenir en arrière, c'est quelque chose qui, moi, me questionne, me hante un peu aussi. Est-ce qu'on ne vit pas, est-ce qu'on n'essaye pas constamment pour avancer dans sa vie, de revivre ou de faire revivre certains instants qui nous ont habiter de manière forte, quoi. Ça, c'est peut-être quelque chose à laquelle je crois, ouais.
Moi, je vous dis rien. Enfin, je veux dire, vous m'avez jamais vu, quoi.
Non.
Je suis désolée de vous avoir suivi. Ça se fait pas du tout de suivre les gens dans la rue. Au revoir.
Au revoir.
Vous voulez bien me dire votre nom ?
Je m'appelle Juste.
Ah, Juste. C'est un prénom qu'on n'oublie pas.
Franjus est vraiment un réalisateur de chevet pour moi. Enfin, j'aime beaucoup ses films et aussi sa manière et sa capacité à faire se conjuguer des registres assez différents qui sont le documentaire et quelque chose de très, très fictionnel, beaucoup plus... c'est pas lyrique, je dirais, c'est peut-être un peu théâtral. Et j'avais envie de, voilà, d'aller dans cette direction, quoi. Il y a un film qui m'a beaucoup inspiré, c'est La tête contre les murs. Le personnage de Juste s'appelle Gérane, comme Jean-Pierre Mocky dans La tête contre les murs. Donc voilà, j'avais envie de rendre hommage à ce film parmi d'autres. Mais voilà, l'idée de la folie aussi, qui est toujours assez proche dans les films de Franju, l'idée qu'on ne sait pas si ce qui est vu est vu à travers le prisme d'un regard un peu délirant, quoi.
J'ai compris pourquoi vous m'avez fait revenir parmi les vivants.
Je vois bien que tout ça n'est pas réel, que ce qu'on vit n'existe pas vraiment. C'est comme une parenthèse, un secret.
Je suis plus du même monde que toi, Agathe. Mais je suis revenue. T'es la première fille, la première de ma vie.
Même si ça me paraît fou, je veux que ça continue. Apparais-moi encore, mon beau rêve.
C'était Stéphane Battu, du coup, au micro de Cinérama, pour le film Vif Argent, qui a été, je le redis quand même, élu meilleur film de la semaine par la presse française.
Et puis qui a eu le prix Jean Vigo 2019, ce qui n'est pas rien. Allez, maintenant, un film dans les salles depuis le 4 septembre, Viendra le feu, d'Olivier Lax.
This is Cinérama.
Et ça, c'est clair.
Prix du jury de la compétition Un certain regard au dernier festival de Cannes, Viendra le feu fait partie de ces films qui, par le biais d'une mise en scène sobre et rigoureuse, portent en eux une aura cinématographique éclatante. L'histoire de Viendra le feu, nouveau film d'Olivier Lax, est ténue. On suit Amador Corro, teint blafard et figure émaciée, qui retourne dans son village niché dans les montagnes de Galice, en Espagne. Personne ne l'attend. Il sort de prison après avoir été accusé de pyromanie. Pour l'accueillir, on trouve un bon ami, mais surtout sa vieille mère et les trois vaches de la ferme. Voilà pour l'ambiance. Hein. Un beau film sait ménager ses ouvertures et là, c'est avec fracas que Viendra le feu nous immerge dans la fiction. Dans un grondement de machines, des arbres se font déraciner un à un, implacablement, jusqu'à ce que les engins arrivent devant un grand eucalyptus. Une métaphore, assurément, qui renvoie l'homme à sa petitesse. Une onde de choc qui vient introduire le doux et lent retour de l'ex-pyromane dans son univers avec la nature qui impose ses neiges et son rythme, hein, parce qu'on suit plusieurs saisons. Car dans cette région rurale d'Espagne, la nature est âpre et dicte aux hommes leurs gestes. C'est d'autant plus vrai pour les éleveurs. Alors le film d'Olivier Lax est au plus près de son personnage et ne peut écarter l'impact de la nature sur celui-ci. Amador Corro est ainsi victime d'un déterminisme. Hein. Animaux et humains sont pour ainsi dire dans le même bateau. Mais ce qui change sous notre regard, c'est le jugement que l'on peut avoir sur cet homme ostracisé par tout un village parce qu'il a un jour craqué une allumette dans une région où le feu est une menace constante. À mesure que le film avance, Amador nous semble réhabilité. On ne saura jamais hein, s'il a vraiment été pyromane, le pyromane qu'on montre du doigt. Les gens du village, au mieux l'ignorent, au pire le montrent du doigt et le moquent.
Algunas rebolas están secas.
Será un cancro.
Pacho, coni.
Claro.
Pour imposer un thème proche du mysticisme, le style du réalisateur franco-espagnol oppose à l'âpreté de sa narration où les dialogues sont rares, une réalisation où l'image cinématographique prend toute son aisance. Alors autant dire que voir ce film dans le huis clos d'un cinéma s'impose, ne serait-ce que pour les plans de cette brume qui se lève sur une prairie humide ou au contraire ce feu qui embrase tout sur son passage. Car le feu du titre va forcément surgir à nouveau. Alors que vient-il faire là? Qui l'a lancé? Un homme, la foudre, on n'en saura jamais rien là non plus. Olivier Lax ne cherche aucun coupable, il n'y en a pas besoin. Les pompiers qui sont à l'œuvre contre le feu glouton n'ont pas non plus le temps de temps à donner à ça. Viendra le feu est une œuvre captivante pour qui aime bien se laisser happer par les images et emmener par un récit qui se construit davantage alors avec le montage qu'avec les dialogues. Le film pourra rebuter tous ceux qui sont en recherche de compréhension immédiate. Viendra le feu d'Olivier Lax, donc dans les salles depuis le 4 septembre.
Vous avez fini?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oh, c'est pas possible.
Non, si, je vous assure.
Non, vous n'avez pas perdu de temps, c'est très bien.
Foutez ma camp!
Allez, la saison cinématographique est lancée pour Cinérama. La semaine prochaine, je vous parlerai des Hirondelles de Kaboul et puis d'un film islandais. Quant à vous?
Eh bien, moi, de Détour, une reprise, et puis de Liberté.
Et moi, d'un film qui s'appelle Le mariage de Verida. À la semaine prochaine.